Bonjour à tous. Je suis particulièrement heureux aussi de saluer ceux qui nous ont rejoints par Internet ce matin. Soyez bénis et nous sommes très très heureux de passer ce temps de conférence et de culte ensemble. J'aimerais ouvrir notre rencontre ce matin de nouveau par un texte de la parole de Dieu en Colossiens au chapitre 3, les versets 16 et 17. Ce texte connu qui dit que la parole du Christ habite en vous avec toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous en toute sagesse par des cantiques, des hymnes, des chants spirituels. Dans la grâce, chantez à Dieu de tout votre cœur. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Amen. Hier après-midi, nous avons parlé de la réalité de l'Église vue d'en haut, l'Église grand angle, l'Église vue à partir de l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. L'ADN de l'Église une est défini par l'Évangile, avons-nous dit. Unis à Christ, par l'Esprit, au moyen de la foi, nous sommes unis à tous ceux qui sont unis au même Christ, par la même foi. L'Église est donc une création du Dieu trinitaire qui est, du point de vue de l'ADN, génétiquement une. Et elle se manifeste dans nos diverses églises locales de diverses manières. Mais ce n'est pas simplement en voyant une de ces manifestations locales que nous comprenons l'Église. Il faut la voir et la recevoir par la foi, comme un fruit de l'Évangile. Et l'Écriture, dans les images qu'elle utilise, nous montre que notre union avec Christ est tout à fait unique. Elle est mystérieuse, elle est personnelle et elle est ordonnée. Nous sommes le corps de Christ. Nous sommes les brebis du berger. Nous sommes le peuple du roi. Dieu a donné pour chef, pour tête à l'Église, le Christ, comme dit Éphésiens 1, 22. Comment fonctionne alors cette Église une que nous confessons avec l'Évangile ? Comment son ADN peut-il parler et se déployer ? Eh bien, par sa tête. Et en ce jour de Pentecôte, nous nous souvenons que c'est Christ, à la tête de l'Église, qui a répandu son esprit sur son peuple pour que ce peuple témoigne de son œuvre, l'œuvre du Seigneur, qu'il témoigne de cette œuvre que le Seigneur lui-même poursuit alors qu'il est à la droite du Père. L'Église est donc conduite, dirigée par Christ, et c'est pourquoi c'est une Christocratie. Nous confessons Christ comme Seigneur. Et c'est d'ailleurs une des toutes premières confessions chrétiennes. Lors de son ascension, Christ a été établi Seigneur sur le monde. Et cela, même si nous ne le voyons pas de façon manifeste par nos yeux, comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Christ a répandu son esprit sur son peuple à la Pentecôte. Et c'est lui qui est aujourd'hui encore, le grand pasteur de son troupeau, comme le dit Hébreux 13. L'Église vit toujours de l'écoute de son Seigneur. Elle vit toujours de ce que dit son chef. Et donc la première caractéristique de l'Église, ce n'est pas de parler, mais c'est d'écouter son Seigneur. Seigneur, qui est justement le Christ, la parole incarnée. La préoccupation première de l'Église et de toute l'Église, c'est que la parole parle, que le Seigneur parle. C'est la condition nécessaire pour que l'Église puisse y répondre de manière appropriée, que ce soit par ses paroles ou ses actes. Et ceux qui sont appelés à parler dans les rassemblements de l'Église sont d'abord appelés à écouter la parole du Seigneur, à l'écouter en amont, dans la méditation et l'étude priante de la Bible, mais aussi dans ce qu'ils sont appelés à entendre venant d'autres ministères ou d'autres membres de l'Église. L'Esprit agit dans l'Église d'abord par sa parole. Christ dirige l'Église par sa parole et son Esprit. Et nous essaierons dans un premier temps de bien voir ce que cela veut dire avant d'en tirer quelques implications pour l'Église qui écoute cette parole et enfin pour discerner comment le fait de recevoir et échanger la parole réforme notre façon de penser l'Église et la vie de l'Église une. Christ dirige donc son Église par sa parole et par son Esprit qu'il a répandu. Les réformateurs ont beaucoup insisté sur le fait que Christ conduit son peuple par la parole et par l'Esprit. Non pas par la parole d'un côté et l'Esprit d'un autre, mais les deux ensemble. Et cela nous invite à approfondir notre compréhension du rôle de la parole pour l'Église. Il est central, tout le monde ici en conviendra, mais c'est un rôle et un statut tout à fait unique en raison de son association à l'Esprit, le Saint-Esprit qui a d'abord inspiré la parole du côté des auteurs humains, le même Saint-Esprit qui ensuite éclaire ou illumine les lecteurs qui reçoivent cette parole dans la foi. Alors concernant la parole, nous savons tous qu'il est imprudent de prendre quelques versets bibliques et de les appliquer ensuite tels quels dans notre contexte contemporain. Il convient de lire, d'étudier, d'interpréter sérieusement le texte dans son contexte original. Mais l'Esprit nous vient aussi en aide pour voir comment ce texte peut façonner notre vie chrétienne et notre existence ecclésiale aujourd'hui dans un autre contexte que celui de l'Écriture. Et pour aider à mieux voir cela, je reprends à la suite du théologien Kevin Van Hooser un court récit de C.S. Lewis qui s'appelle « Méditation dans une cabane à outils ». Dans ce petit récit, le narrateur suit un homme qui, par un jour ensoleillé, sort de sa maison pour aller dans sa cabane à outils au fond du jardin. C'est une baraque de planches en bois, sans fenêtre, avec pour seule ouverture une porte pour y accéder. Et notre homme ouvre la porte de la cabane, il entre, et alors que la porte se referme doucement derrière lui, il est saisi par la pénombre et ne voit d'abord rien. En fait, si, il voit quelque chose parce que par un interstice entre deux planches, un rayon de soleil pénètre dans la cabane. Et notre homme voit ce rayon qui illumine simplement la poussière qui flotte au milieu de cette cabane à outils. Il ne voit que ce ray de poussière lumineuse en contraste avec la pénombre, les ténèbres qui règnent autour. Et puis à un moment, il s'avance et il se place dans l'axe du rayon de lumière qui vient de l'extérieur. Et de ses yeux, il suit le rayon jusqu'à la paroi et il peut voir alors, à travers la fente entre les planches, des feuilles qui se balancent sous un ciel d'un bleu étincelant. Et Van Hooser se sert de cette histoire-là, de ce récit, pour évoquer le rôle de la parole et la manière dont elle sert pour l'Église. Et il utilise l'expression « être capable de lire le long du texte ». Qu'est-ce qu'il veut dire ? Nous sommes bien sûr appelés à étudier l'Écriture pour mieux la comprendre dans son contexte. Mais c'est un premier pas pour discerner sa lumière. C'est un peu comme notre homme qui est dans sa cabane. S'il ne regarde que le rayon de soleil, il ne voit finalement pas grand-chose. Mais si nous nous plaçons dans l'axe de l'écriture, comme l'homme s'est placé dans l'axe du rayon de soleil, on peut alors discerner autre chose. On peut voir ce que le texte montre, ce vers quoi il pointe. On peut voir alors la radieuse beauté de Christ qui nous révèle le Père et dont la lumière transforme notre façon de vivre aujourd'hui. Et aussi importante que soit l'analyse grammaticale, historique, contextuelle, l'Écriture nous invite à suivre son rayon pour voir ce qu'elle montre. Et ce qu'elle montre, c'est l'Évangile. Et ce que veut dire l'Évangile pour nous aujourd'hui, dans notre contexte en 2024. Sur l'Église, justement. Plusieurs textes parlent des relations entre chrétiens d'origine juive et chrétiens d'origine païenne, montrant qu'ils sont réconciliés par Christ. Alors, très franchement, dans les églises que j'ai fréquentées, moi je n'ai jamais été témoin de problèmes entre chrétiens d'origine juive et d'origine païenne. Même pas de conflits ouverts sur des questions culturelles. Pour autant, il n'est pas nécessaire de déchirer la page d'Éphésiens 2, de Romains 14 ou d'autres textes, parce que ce qu'ils montrent, ce qu'ils mettent en scène, c'est la puissance de l'œuvre de réconciliation de Christ, sa mort expiatoire, sa résurrection, et cela pour mettre ensemble et pour unir des gens que tout, y compris leur foi dans le Dieu de l'Alliance, pouvait, voire même devait, séparer. Ce qui est montré de la puissance de l'œuvre de réconciliation en Christ a donc une portée beaucoup plus grande pour tous les murs qui peuvent séparer des humains selon leur culture, leur langue, leur religion d'origine. L'Église locale de Rome, d'Éphèse, ou ici de Grenoble, vit et manifeste la réalité de cette unité établie en Christ qui renverse les murs. Et qui fait du peuple de Dieu un peuple solidaire sous la conduite de Christ. Lire la Bible le long du texte, c'est voir ce que l'Écriture nous montre pour aujourd'hui. Et dans la diversité des auteurs et des genres, il faut reconnaître que l'Écriture montre bien plus qu'elle ne démontre sur un registre purement intellectuel. Autrement dit, le rôle de l'Esprit pour l'Église est ici de nous permettre justement de voir le long du texte de l'Écriture la réalité telle qu'elle a été établie en Jésus-Christ, prévue de toute éternité et rendue actuelle à tous les temps et dans tous les lieux par l'action du Saint-Esprit. Et cette parole par notre oreille, et par l'action de l'Esprit, touche toutes nos facultés humaines. Notre compréhension, lorsque nous saisissons mieux un aspect de l'œuvre de Christ ou une exigence de l'Évangile. Notre volonté, lorsque cette parole nous met à genoux dans la repentance. Nos affections les plus profondes, lorsque cette parole rendue agissante par l'Esprit nous fait aimer ce que Dieu aime et nous fait détester ce qu'il déteste. Il nous faut toujours avoir à l'esprit cette épaisseur de la parole par laquelle Christ conduit son Église et tout ce qu'elle vient toucher dans l'ensemble de nos vies. Nos esprits, bien sûr, mais aussi nos volontés, nos affections, nos sentiments qui ont besoin d'être éduqués. Inspirés par l'esprit, mais aussi illuminés par l'esprit, l'Écriture vient présenter Christ et représenter Christ à l'Église aujourd'hui dans ses différentes facettes et dans sa richesse infinie. C'est un peu ce que l'expérience de Paul sur le chemin de Damas a changé d'un point de vue immédiat. Il a vu Jésus. Le pharisien qu'il était connaissait bien l'Écriture, il la connaissait même très bien. Il était zélé, désireux de servir Dieu, mais, dira-t-il plus tard à Timothée, ignorant, car incrédule. L'Écriture était pour lui surtout un ensemble de règles à suivre pour plaire à Dieu, lui disant que faire ou pas. Renversé de son cheval, il découvre et voit ce que l'Écriture montre, la grâce de Jésus-Christ à l'œuvre par la puissance de l'Esprit. Et le reste de sa vie, suivant son appel à l'apostolat, va consister à comprendre et expliquer Jésus-Christ à la lumière de l'Écriture. Pas simplement expliquer l'Écriture à la lumière de Jésus-Christ, expliquer Jésus-Christ, le centre est Christ lui-même, parce que l'Écriture nous donne les mots, les images, le langage pour dire Jésus-Christ, pour dire l'Évangile et vivre l'Évangile aujourd'hui. Cette parabole de la cabane à outils mais personnellement utile pour que le pharisien qui sommeille toujours en moi, comme probablement en d'autres, ne confonde pas sa compréhension de l'Écriture avec l'Évangile. Qu'il ne confonde pas une relative expertise sur le texte de l'Écriture, et elle est utile, avec l'Évangile que l'Écriture nous montre. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit par la parole. Le fait que Christ dirige par l'Esprit et la parole, ensemble et à travers des ministères, nous empêche de penser que nous pourrions domestiquer l'Esprit et la parole pour l'enfermer ou les enfermer dans notre vision de l'Église, dans notre compréhension de la foi chrétienne, dans notre culture ou notre sensibilité spirituelle. La Christocratie nous renvoie au fait que le Dieu de l'Évangile et l'Évangile lui-même est toujours plus grand, plus puissant que ce que nous en disons, pensons et vivons. Elle nous invite à l'humilité joyeuse d'être au service d'un si grand Dieu qui se fait connaître par sa parole et son esprit. Elle nous ramène à genoux, au pied du Maître, pour l'écouter et pour nous laisser toujours réformer par la parole. Christ dirige donc son Église par sa parole et par son esprit. C'est le principe fondamental de la Christocratie. Lorsque Paul, en 1 Corinthiens 12, parle des choses spirituelles, il place au premier rang des dons les ministères de la parole. Premièrement, deuxièmement, troisièmement, voilà, les ministères de la parole. Et ensuite, d'autres dons assez variés qui ont toute leur place, mais on pourrait dire dans le cadre de la manifestation de la parole de l'Évangile. Et je note que ce texte sur l'Église, 1 Corinthiens 12, comme celui d'Éphésiens 5 ou de Romains 12, mentionne plusieurs ministères de la parole. Ils sont au pluriel, parce que cette parole s'exprime et se manifeste de différentes façons. Alors, en langage contemporain, dans nos assemblées, on parlera de proclamation, typiquement pour parler de la prédication du culte, mais pas exclusivement. On parlera peut-être d'études pour l'enseignement plus méthodique de l'Écriture, d'exhortation pour une parole qui a une portée très immédiate dans le vécu de l'Église. Il faudrait encore ajouter l'enseignement par le catéchisme, l'accompagnement dans le 1-1. Il y a plusieurs formes de ministère de la parole à l'œuvre sur plusieurs échelles. Bien sûr, le titre d'apôtre était uniquement réservé aux 12 et à Paul, au sens fort. Mais nous n'avons pas de raison de penser qu'au sens plus faible, le ministère apostolique d'implantation d'églises et d'affermissement de plusieurs églises est disparu. De même, le titre de prophète a lui aussi un sens fort, au sens de ceux qui ont mis par écrit ce qui est devenu la Bible, le canon. Mais il serait bien imprudent de penser que Dieu ne donne plus à l'Église ou aux Églises, par certains dons, un discernement sur la manière dont le témoignage de Christ est appelé à se manifester ici et maintenant en conformité avec ce que nous montre la parole lue le long du texte. C'est toujours l'Esprit qui est à l'œuvre par la parole infaillible de Dieu et qui permet de voir aujourd'hui la réalité établie en Christ pour agir et pour vivre en conformité avec elle. Et l'Église a besoin d'entendre ensemble cette parole pour la vivre. C'est ainsi que Christ conduit son Église. Par l'Esprit, cette parole est rendue agissante. C'est un dire, bien sûr, une parole, c'est un dire, mais ce dire est aussi un faire. La parole fait des tas de choses. Elle enseigne, elle confesse, elle commande, elle raconte, elle fait réfléchir parfois. C'est un dire, c'est un faire, mais c'est encore un vivre, puisque ce qui est confessé en Christ et par l'Esprit, c'est notre réelle identité en Dieu. Et par l'Église une, c'est notre identité publique et collective, comme nous l'avons vu hier. La parole n'agit pas sans l'Esprit qui l'a inspiré et qui en illumine sa lecture. Mais c'est vrai que l'Esprit agit aussi en mettant en action cette parole par les autres dons qu'il fait à l'Église. Si les ministères de la parole sont structurants pour l'Église, d'autres dons sont généreusement faits à l'Église pour la manifestation de l'Évangile. On pourrait parler de dons plus diaconaux comme le secours, la guérison ou le leadership, pour prendre les termes d'1 Corinthiens 12. Ils sont signes de la grâce de Dieu en Christ, mais sont aussi des éléments que Dieu donne à l'Église pour que celle-ci puisse discerner une direction pour l'Église locale. La présence de certains de ces dons plutôt que d'autres devrait conduire une Église locale à s'interroger sur l'orientation de son témoignage, sur la manière dont l'Esprit veut la conduire à présenter et à représenter Christ dans son quartier, peut-être en visant une population particulière, peut-être à travers une activité très ciblée au service du quartier. Ces dons, de manière seconde, instruisent aussi sur ce que Dieu veut faire dans et par cette Église locale. L'Église écoute donc son Seigneur qui la conduit par la parole et par son esprit. Et le principe premier de Christocratie nécessite que tous soient d'abord à l'écoute de la parole et de ses différentes formes. En tant que prédicateur dans mon église locale et enseignant dans une faculté de théologie pour les églises locales, je dois d'abord être à l'écoute. Je ne représente qu'un certain type d'enseignant, certainement pas le seul. Et moi-même, j'ai besoin des autres enseignants, j'ai besoin de l'exhortation mutuelle, j'ai besoin de tout cela pour saisir l'épaisseur de la parole, ses multiples dimensions, j'ai besoin de cela pour mûrir dans mon propre ministère. Je suis au bénéfice d'autres dons que le Seigneur a faits à son Église. Ce premier principe est indépassable. Et les implications pour la vie de l'Église sont considérables. En effet, si Christ conduit son Église par sa parole et son esprit, ça implique bien, je le répète, que toute l'Église est dans l'écoute. Tous ne sont pas appelés à un ministère de la parole reconnu, mais tous sont appelés à participer, selon les dons, au discernement de la pensée de Christ. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas de laïcs dans nos églises. Certains sont mis à part, c'est vrai, pour un ministère particulier, mais nous sommes un peuple de prêtres. Certains ont un rôle particulier dans le discernement de la pensée de Christ, mais ce ne sont pas les seuls. Je pense évidemment à ceux que nous appelons les anciens, ceux qui ont pour charge de veiller à la justesse de l'enseignement, à la bonne marche et au bon ordre dans l'Église locale. Mais eux aussi ont besoin d'être à l'écoute de la parole et pas seulement dans leur culte personnel. Et je pense aussi à tous ceux qui participent de différentes manières à l'enseignement dans l'Église. Eux aussi ont besoin d'être à l'écoute de la parole. Et à partir des différents ministères de la parole évoqués dans les Épîtres, on constate rapidement que certains de ces ministères ne sont pas rattachés uniquement à une église locale, mais en servent plusieurs. Apôtres, prophètes, évangélistes. Dans la confession de l'Église une comme créature de la parole, animée par l'Esprit de Christ, il y a ce que j'appelle cette communalité, cette mise en commun des dons de Dieu à l'Église. Oui, les ministères sont discernés dans l'Église locale, mais ils sont pour l'Église une. Et ils seront, selon l'appel de chacun, déployés au niveau d'une ou de plusieurs églises locales. Les anciens, les prédicateurs, les ministères jeunesse, tout cela. La manière dont Christ dirige l'Église par ses dons, par sa parole et son esprit, met d'emblée en relation les églises locales entre elles. Christ conduit bien sûr chaque église locale en particulier, mais pas isolément des autres églises locales. Et tous ces ministères-là ont besoin aussi d'être à l'écoute de la parole. Les ministères de la parole sont donc solidaires en Christ, ce qui signifie qu'il n'y a pas de ministère solitaire dans l'Église. De ministères qui fonctionneraient, comme on dit, en silo, ou de groupes de ministères solitaires, ou d'églises locales solitaires. Les anciens, je l'ai dit, sont eux-mêmes à l'écoute de ce que Dieu dit également à travers d'autres, venant de l'église locale ou d'ailleurs, parce que c'est la réalité organique de l'église une, c'est son ADN qui fonctionne ainsi. Ils ne sont jamais au-dessus de la parole, mais toujours à son service, et donc d'abord à son écoute, pour le service de l'Église une et pour la manifestation de l'Évangile à plusieurs échelles. Conduire, diriger, requiert dans l'Église la condition de l'écoute. C'est lors d'un culte qui rassemblait plusieurs ministères de la parole, tous ensemble à l'écoute du Seigneur, que l'Église a conduit Paul et Barnabas vers un nouveau voyage missionnaire, hors de l'Église locale où ils étaient responsables, et peut-être considérés indispensables. L'écoute de la parole, diversement exposée et manifestée dans la vie de l'Église par différents ministères et à différentes échelles, c'est la condition indispensable pour que les anciens eux-mêmes puissent conduire l'Église locale, puissent d'abord être conduits de manière à accomplir à leur tour la mission d'amener l'Église à la suite du Christ. L'ADN du nouvel homme créé en Christ implique ce caractère d'interdépendance des membres en Christ à l'écoute de Christ dans les dons réciproques qui débordent toujours nos églises locales. Il y a donc, avec la Christocratie, toute une économie spirituelle du don qui nous est révélée en Jésus-Christ. Oui, Dieu est fondamentalement un Dieu qui donne, qui pardonne et qui se donne. Il donne ses bienfaits liés à sa création. Il donne sa loi et sa parole. Il se donne en son Fils pour pardonner les péchés. Et avec son Fils, il donne son Esprit qui donne vie, son Esprit qui lui-même fait des dons pour le bien de l'Église et pour le témoignage commun. L'Église, qui se conforme à son Seigneur, vit dans cette économie du don, ou cette économie du servir, du service. Cette économie du don et du service est donc le principe d'organisation de la christocratie. Comment Christ règne-t-il sur son Église? En la servant par sa parole et son esprit. Celui qui s'est donné pour notre salut est le roi serviteur. Et quand les disciples se disputaient à propos de leur rang dans le gouvernement du Messie, à droite ou à gauche de Jésus, le maître les a renvoyés à cette économie du don, cette économie du service, par son propre exemple. C'est en Marc 10, verset 42-45. « Vous savez, dit Jésus, que ceux qui paraissent gouverner les nations dominent sur elles en Seigneur, que les grands font sentir leur autorité. Il n'en est pas de même parmi vous. Au contraire, quiconque veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. Car, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. » L'économie du don est donc le principe d'organisation de la christocratie, et toute autorité qui nous est confiée en raison d'un ministère trouve ici à la fois son fondement et sa limite. Cela vient de la manière dont Christ lui-même exerce l'autorité quand il sert l'Église par la parole et par l'Esprit. Parce qu'il faut bien se rappeler que celui qui est aujourd'hui ressuscité, celui que nous appelons le Seigneur, qui a envoyé son Esprit, il n'a pas changé de caractère par la résurrection et l'ascension. Il a changé de condition. Humilié, il a été exalté, glorifié. Mais c'est le même Christ, fils du même Dieu. Ce Dieu qu'on peut appeler le Dieu humble, comme dit Henri Blocher quand il commente Philippiens 2. En Philippiens 2, Paul montre le Fils de condition divine, acceptant de se dépouiller, de prendre la forme d'un serviteur et de mourir pour cela, pour être glorifié, exalté ensuite. La plus grande victoire et la plus grande gloire dans toute l'histoire du salut, elle a été acquise sur la croix, là où en Christ, Dieu s'est fait le serviteur de tous. Et Christ, dans son exaltation, continue de servir l'Église une en la servant par sa parole et par l'Esprit qu'il donne. Toute direction de l'Église, toute autorité est appelée à manifester les dispositions du Dieu humble qui, en Christ, s'abaisse pour élever l'autre. Ce sont les dispositions à développer par tous ceux qui sont en Christ, unis à lui par son Esprit. Comprendre l'Église à partir de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ, à travers l'Écriture, comprendre donc cette Église une, nous amène à revoir en permanence les schémas de pensée, de fonctionnement habituels, imbibés de notre culture, de sa conception de l'autorité et de la hiérarchie. Et donc, en ce sens, la parole, c'est toujours aussi l'instance critique qui, par l'Esprit, nous confrontera en permanence à nos schémas tout faits. Elle dévoilera toujours les filtres culturels et humains à travers lesquels nous interprétons l'Écriture. L'Église une, conduite par Christ, nous amène à revêtir cette nouvelle humanité établie en Jésus-Christ. Cette humanité christocratique, pourrait-on dire, qui est aussi infiniment respectueuse de chaque personne individuelle pour laquelle Christ est mort, que soucieuse de la croissance commune en humanité de cette Église que Dieu a acquise par son propre sang, comme dit Paul. Quand, en Éphésiens 4, versets 11 et suite, Paul parle des ministères de la parole au service de la croissance du corps, et cela jusqu'à arriver à la pleine stature de Christ, il ne parle pas de chaque chrétien individuellement et isolément. Il parle de l'Église, du corps, de l'Église ensemble, au-delà même des murs de l'Église locale. C'est le corps qui grandit par et avec chacun de ses membres. C'est comme ça que la Christocratie fonctionne. Je ne peux être vraiment humain au sens de la nouvelle humanité en Christ qu'avec toi et toi et encore toi et tous les autres membres de l'Église. Et c'est pourquoi ce principe structurant requiert de cultiver ces dispositions qui étaient en Christ et qu'on retrouve répétées tout du long du Nouveau Testament. Patience, bienveillance, compassion, persévérance. On en a besoin pour être capable de recevoir ce que Dieu donne en Christ par sa parole et par son esprit. L'Église, à cette lumière, l'Église une, est donc fondamentalement un tissu de relations. C'est un tissu de relations animé toujours plus par l'Esprit de Christ. Dans cette économie du don. Et cette réalité est appelée à advenir, à se manifester dans nos églises locales et entre nos églises locales. Parce que c'est une création de la parole animée par l'Esprit qui ne s'arrête pas. Dans l'Église une, les relations qui nous lient au sein de l'Église locale s'exprimeront aussi dans nos rapports entre nos églises locales. Et donc, l'union d'églises, qui est une manifestation de l'Église une, mais pas la seule, n'est pas au-dessus de l'Église locale. Non, elle est aux côtés, avec les églises locales, au sein de cette économie christocratique du don que nous voulons assumer ensemble. Mais pour savoir comment nous pouvons assumer cela ensemble, il faudra revenir demain matin en ces mêmes lieux. Que le Seigneur vous bénisse.